C'est le journal de Laura Dulieu. Bonjour Laura.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
Avec à la une, l'opération relance pour Anne Hidalgo. La candidate socialiste doit être officiellement investie cet après-midi à Lille. Le PS espère ainsi la faire décoller dans les sondages. On y revient après les autres titres, Laura.
Gros succès pour les vacances de la Toussaint. Les Français sont même plus nombreux à partir qu'avant la crise sanitaire. Exemple en Dordogne où les réservations de dernière minute explosent. Après l'accident tragique sur le tournage d'un western lors duquel l'acteur Alec Baldwin a tiré par accident et tué la directrice de la photographie et blessé le réalisateur. L'enquête se poursuit, on fera le point. La Meuse va-t-elle accueillir des déchets nucléaires français? En tout cas, l'enquête publique sur le centre de stockage Cigéo à Bure se termine aujourd'hui. Et enfin, au lieu d'envoyer les poules à l'abattoir, pourquoi ne pas les récupérer chez vous? C'est le parti d'une entreprise qui parcourt la France pour sauver les poules.
Et puis dans 20 minutes, notre invité, il sera politique cette interview avec Mathieu Orphelin, député du Maine-et-Loire et porte-parole du candidat Yannick Jadot.
France Inter. La maire de Paris réussira-t-elle à s'imposer dans la course à la présidentielle? Avec un programme flou, une organisation pas toujours efficace et des voix dissonantes au sein même de son parti, la candidate PS ne décolle pas dans les sondages. Elle peine à réunir autour d'elle sa famille politique. La convention d'investiture cet après-midi à Lille doit lui permettre de prendre un nouveau départ et repartir d'un bon pied. C'est le sérieux de sa candidate que le Parti Socialiste espère mettre en avant, Antoine Gignot.
Benoît Hamon, en 2017, était un candidat fantoche. Cette fois, c'est différent, promet Patrick Kanner, le chef de file des socialistes au Sénat. Anne Hidalgo, dit-il, entre dans le cercle très fermé de ceux qui ont la possibilité d'amener la gauche au pouvoir. Il faut qu'on impose le sérieux de sa candidature, complète Patrick Mennucci. On doit montrer aux Français qu'elle représente une gauche capable de gouverner et qu'elle se différencie des Verts, explique l'ancien député socialiste des Bouches-du-Rhône. Autrement dit, il faut en finir, une fois pour toutes, avec l'idée d'une alliance avec les écologistes et éviter les changements de bord intempestifs à l'image du départ de l'ancien ministre socialiste François Lamy qui rejoint les Verts et l'équipe de campagne de Yannick Jadot. Reste tout de même pour réunir tout le monde à clarifier le projet, glisse un cadre du parti, et à montrer une image unie avec une idée simple pour commencer, rappelle Patrick Mennucci. Si on veut qu'Anne Hidalgo décolle, il faut au minimum qu'on soit tous en capacité d'en dire du bien.
Et pour ce qui est de rassembler en dehors du Parti Socialiste, ça n'est pas gagné non plus. Il y a quelques semaines, Anne Hidalgo déclarait à propos d'Arnaud Montebourg, candidat lui aussi à la présidentielle, « On l'embarquera, vous verrez ». Eh bien, l'ancien ministre du Redressement Productif lui a répondu hier.
Moi, mon camp, c'est la France. Parce que mes idées sont, je les défends depuis 20 ans avec constance, de façon rectiligne, sont majoritaires. Et j'en veux pour preuve. Madame Le Pen rêve de me mettre dans son gouvernement. Monsieur Mélenchon, il y a quelques années, voulait que je sois son Premier ministre. Monsieur Bertrand me trouve formidable. Et voilà que Madame Hidalgo rêve de m'embarquer. Donc, on va pas m'embarquer. J'ai commencé la campagne il y a 6 semaines, j'étais à 0, je suis déjà à 4. Madame Hidalgo, elle était à 8, elle est tombée à 4. Donc dans 6 semaines, je serai à 8 et elle sera à 0.
Et de l'autre côté de l'échiquier politique, Marine Le Pen se dit convaincue qu'Éric Zemmour n'a aucune chance d'arriver au second tour, tandis que les sondages les placent au coude à coude.
Vous êtes de plus en plus nombreux à partir en vacances de la Toussaint et même plus nombreux qu'en 2019, avant la crise du Covid-19.
40 millions de personnes ont déjà réservé leurs vacances, un chiffre qui va grimper. Les réservations de dernière minute sont devenues habituelles notamment dans les hôtels du Périgord, Charles Dusserand.
Comme à Sarlat, à l'hôtel Le Compostelle, tout est prêt, mais le téléphone reste bien silencieux derrière le comptoir où est assis le directeur Ludovic Mouillin.
Ça commence, mais très doucement. On a un démarrage avec un taux d'occupation de 2%, ce qui est très faible. Donc on va compter sur le passage avec beaucoup d'espoir. On pense qu'il y aura, en tout cas pour la clientèle de proximité, des réservations de dernière minute.
Dans la même rue, en face à l'hôtel de Selve, le carnet est à moitié rempli pour les vacances, des clients français, mais c'est tout récent, explique le directeur Luis Rodriguez.
Nous recevons des réservations aujourd'hui. 400 qui sont tombés pour le week-end prochain, donc le week-end de la Toussaint. En ce moment, c'est à la dernière minute. On n'a pas de visibilité à 15 jours, à 3 semaines.
Tout va dépendre de la météo et parfois c'est vraiment au dernier moment, selon la directrice de l'Office de tourisme du Pays de Fénelon. Émilie Loubria a fait le tour des hébergements.
Et ils m'ont dit que vraiment là, ils expérimentaient l'ultra dernière minute. C'est-à-dire que s'il fait beau, les gens l'appellent le vendredi soir pour arriver 2 heures plus tard. Donc on a du tourisme de proximité et qui fait de l'ultra dernière minute. Et ça, beaucoup de l'hôteliers m'ont dit, c'est nouveau, bon, on s'y fait.
La tendance existait avant le Covid, elle s'est accentuée selon les professionnels.
Et si vous partez en train depuis la gare Montparnasse à Paris, attention aux événements. d'éventuelles perturbations à cause d'une grève des conducteurs de train vers l'ouest de la France. Pour aujourd'hui, la SNCF prévoit quand même la circulation de 8 TGV Atlantique sur 10. Le congé pour les proches aidants élargi et revalorisé. Feu vert de l'Assemblée nationale hier. Le montant de l'allocation sera équivalent au SMIC et les critères de dépendance pour avoir droit à ce congé vont être assouplis. Joe Biden et Emmanuel Macron se sont téléphonés hier, toujours pour tenter d'apaiser les relations franco-américaines après la crise des sous-marins australiens. Les deux dirigeants doivent se rencontrer fin octobre lors du G20 à Rome. Et puis la Maison-Blanche confirme Kamala Harris, la vice-présidente américaine, sera à Paris les 11 et 12 novembre. Elle sera reçue par Emmanuel Macron. Et par ailleurs, Washington qui annonce avoir tué un dirigeant d'Al-Qaïda lors d'une frappe de drone en Syrie, 2 jours après l'attaque contre une base du sud syrien utilisée par la coalition anti-djihadiste menée par les États-Unis. Aux États-Unis, toujours où l'enquête se poursuit après la mort accidentelle et par balle jeudi d'une femme, la directrice de la photographie sur le tournage d'un western au Nouveau-Mexique. C'est l'acteur Alec Baldwin qui est l'auteur du coup de feu mortel. Il s'est exprimé pour la première fois hier et se dit dévasté. Le réalisateur a aussi été blessé. L'arme que l'on venait de lui tendre était supposée n'être qu'un accessoire de tournage selon les derniers témoignages recueillis par les enquêteurs Loïc Loury.
À peine quelques minutes avant le coup de feu sur le plateau, c'est l'assistant réalisateur qui avait tendu l'arme à l'acteur Alec Baldwin en criant « cold gun » traduisait « arme froide », c'est-à-dire qu'elle n'était pas supposée contenir de véritables munitions. Mais le tir est bien parti, atteignant à l'abdomen la directrice de la photographie Alina Hutchins, morte ensuite à l'hôpital, touchant aussi à l'épaule le réalisateur du film Joël Souza. L'assistant, affirme la police, ne savait pas que l'accessoire contenait des munitions active. Une question cruciale demeure. Comment un revolver chargé s'est-il retrouvé parmi d'autres sur un chariot? Le témoignage de la spécialiste en charge des armes sur ce tournage va s'avérer décisif. L'affaire, par ailleurs, relance le débat sur les conditions de travail à Hollywood. Une grève a été évitée de justesse cette semaine. Selon le Los Angeles Times, 6 membres de l'équipe technique du film avaient quitté le plateau avant le drame pour protester. New York, Loïc Loury, France Inter.
Matteo Salvini dans le box des accusés. L'ancien ministre italien de l'Intérieur est jugé aujourd'hui pour avoir séquestré le navire de l'ONG Open Arms il y a 2 ans, avec à son bord 147 migrants en détresse. Le leader d'extrême droite risque 15 ans de prison.
En France, c'est aujourd'hui que se termine l'enquête publique lancée il y a un mois et demi sur le projet Cigéo.
Ce centre de stockage à Bure dans la Meuse qui doit accueillir les déchets radioactifs du parc nucléaire français à 500 mètres sous terre. Sa mise en service est prévue pour 2035, mais avant cela, il faut passer par de nombreuses étapes, dont cette enquête publique. Bonjour Léa Dubost.
Bonjour.
Où en est-on alors à l'heure actuelle ?
Eh bien, cette enquête publique se termine ce midi après un peu plus de 5 semaines de consultation. Tous les Français pouvaient donner leur avis, soit par Internet, par courrier ou directement aux permanences physiques dans les mairies. Alors, les participants se sont principalement exprimés sur Internet. Plus de 3000 contributions ont été enregistrées. Les opposants au projet, eux, ont boycotté l'enquête. Ils jugent notamment le délai trop court, mais comptent continuer à se mobiliser après des manifestations et des perturbations de réunions publiques. Une action est prévue ce matin à la mairie de Montier, le siège de l'enquête.
Et maintenant que l'enquête est terminée, Léa, quelles sont les autres étapes ?
Alors la commission d'enquête va désormais rédiger un rapport et rendre un avis favorable ou défavorable avant fin novembre. Cela va servir de support au Premier ministre qui devra lui prononcer ou pas l'utilité publique du projet Cigéo. Mais cela ne marquera pas pour autant le coup d'envoi des travaux car il faudra encore une autorisation de création. C'est une procédure qui prend entre 3 et 5 ans. Quant aux premiers colis de déchets radioactifs, ils n'arriveront pas à Bure avant 2035 si tout est validé.
Merci Léa Dubost. Ce témoignage rare dans le monde du foot, l'ancien capitaine de l'équipe de France, Patrice Evra, révèle avoir été victime de viol dans son adolescence. Un témoignage dans son autobiographie « I love this game » qui sort jeudi prochain et dont les 2 premiers extraits ont été publiés hier dans le journal anglais The Times.
Une opération sauvetage de poules, ça se passe dans le Calvados.
À Bretteville-sur-Odon exactement, l'entreprise Poule pour tous y vend des bêtes condamnées à l'abattoir. Elles sont récupérées par cette société qui les vend vendent ensuite 5 euros pièce aux particuliers, avec l'avantage d'avoir ensuite un nettoyage naturel et permanent de son jardin et en prime un œuf par jour en moyenne. Les 828 poules ont trouvé preneur, Didier Charpin.
Bonjour. Il a garé sa petite camionnette bien en vue sur le parking. Thomas Dano, le patron de Poules pour tous, propose aujourd'hui des coulées en élevage récupérées à Sainte-Mère-Église.
De base, quand un élevage doit partir à la réforme à la fin d'une année de ponte, elles sont envoyées en fait à l'abattoir. Aujourd'hui, les éleveurs nous font appel pour éviter l'abattoir et qu'on leur trouve des familles pour qu'elles continuent de couler une retraite paisible à pondre des œufs.
Les poules partent par l'eau. Caroline est venue de Gouvy.
Ah, moi, je suis une amoureuse des bêtes.
Il y en a combien, là ?
Moi, j'en prends 5.
Elle est suivie par Marilyn, qui a fait 40 km depuis Ouilly-le-Tesson.
On vient les sauver de l'abattoir, et puis en même temps, que ça soit écologique et des œufs. Voilà, tout y est.
Elles viennent d'un élevage plein air.
D'un élevage plein air ?
Ouais, elles avaient accès à la verdure toute la journée. C'est pour ça qu'elles sont belles. Comme ça, elles vont couler des jours heureux chez vous.
Ah, bah oui, elles vont couler des jours heureux, parce que je peux vous dire qu'à partir de l'ordre de mort, on ne passera pas la gamelle, ceux-là. Bon, lotissement, on aura peut-être des grincements de dents avec certains voisins. Si ça chante, mais de toute façon, ils auront pour la loi.
Difficile de savoir si les voisins de Christian, cet habitant de Colombelles, apprécieront cette nouvelle compagnie dans le jardin d'à côté. L'opération, en tout cas, est un succès.
Aujourd'hui, il y a à peu près 150 familles qui vont venir.
Thomas Dano a déjà repris sa camionnette, direction la région d'Angoulême, pour sa prochaine vente de poules dès ce week-end.
Voilà pour le reportage de Didier Charpin, 8h11 sur France Inter, lors des sports.
Et le journal des sports avec Marine Claire. Bonjour Marine.
Bonjour Laura.
Et on commence avec le foot. C'est une soirée riche en émotions hier pour Saint-Etienne.
Les Verts recevaient Angers pour le compte de la 11e journée de Ligue 1. Après un retard du coup d'envoi à cause d'incidents entre les supporters, les Stéphanois sont menés 2-0 avant de revenir à un but. C'est finalement Michael Nadé qui libère Saint-Etienne à la 94e minute de jeu. Les Verts qui restent quand même à 13 matchs sans victoire en Ligue 1. Suite de la 11e journée au programme aujourd'hui, Nantes, Clermont et Lille-Brest. Toujours en football, les Françaises ont surclassé l'Estonie hier soir, victoire 11-0. Alors la tâche n'était pas trop difficile contre la 105e équipe au classement FIFA, mais ça fait tout de même 3 victoires en 3 matchs pour les Françaises. Prochain rendez-vous mardi au Kazakhstan, les Bleus jouent en ce moment les qualifications pour la Coupe du Monde de 2023. Et puis à noter en cyclisme sur piste, les mondiaux se courent en ce moment à Roubaix. Benjamin Thomas a été sacré champion du monde de la course au point hier. 2 victoires françaises dans ces mondiaux après celle du jeune Donavan Grondin jeudi en scratch.
Et en rugby, journée inédite à Perpignan, 2 crunchs entre la France et l'Angleterre.
2 matchs événements puisqu'il s'agit de rugby à 13. 2 crunchs donc, d'abord les filles à 13h puis les garçons à 15h30. Alors si en 10 ans il y a eu 14 France-Angleterre en rugby à 15, en rugby à 13 il n'y en a eu que 3. Un compte famélique qui montre la difficulté d'organiser des matchs internationaux dans ce sport. Adèle Belloumri, le rugby à 13 manque de notoriété en France.
Certes, il y a un léger frémissement depuis l'épopée des Dragons catalans de Perpignan en Super League, l'élite du rugby à 13, mais côté sélection nationale, rien à se mettre sous la dent. Seul un match contre les moins de 23 ans australiens, il y a 2 ans, pour Nicolas Jacquemart, journaliste pour le site spécialisé 13 mondial, les coupables sont tout trouvés.
Les ligues que sont la NRL et la Super League sont des ligues privées, très puissantes, qui ont des calendriers qui sont déjà très chargés, sont généralement prioritaires sur les sélections nationales, et c'est pour cela que c'est toujours un peu dur d'organiser des matchs.
Alors ces 2 crunchs sont une aubaine pour le rugby à 13 avec une diffusion sur 3 chaînes françaises. Jamais un match de la France n'aura été autant médiatisé, précise le président de la fédération Luc Lacoste sur France Bleu Roussillon.
C'est la première fois dans le monde du 13 qu'on va toucher des droits télé. C'est pas mal. Oh, c'est pas énorme. Hein. Il faut un début à tout. Et donc on aura 3 chaînes de télé qui vont se pencher sur le sujet, plus les Anglais. Ça va être transmis aussi en Australie. Bref, ça commence, ça vient.
Luc Lacoste espère un public nombreux à Perpignan pour appuyer la candidature de la France à l'organisation de la Coupe du Monde de rugby à 13. En 2025, une nomination qui sera connue courant du mois de novembre.
Le rugby à 13, c'est cet après-midi à Perpignan à 13h.
Et début de la Coupe du Monde de ski alpin en Autriche aujourd'hui.
La saison de Coupe du Monde débute à Zolden en Autriche. L'homme à battre, c'est le français Alexis Pinturo, vainqueur du gros globe de cristal la saison dernière. C'est le grand favori. Chez les dames, Tessa Worley est la seule à pouvoir accrocher une victoire ou un podium. Et à 32 ans, elle veut en profiter au maximum.
J'ai envie de vraiment saisir toutes les opportunités qui s'offrent à moi. J'arrive sur une fin de carrière bien remplie avec de belles médailles déjà, de beaux objectifs atteints. Donc j'ai juste envie de profiter pleinement de tout ce qui va encore arriver, des belles échéances qu'on a encore avec des Jeux l'année prochaine, des championnats du monde en France. Je suis encore compétitive, encore capable d'aller chercher de gros résultats. Parfois ça va peut-être pas jouer en ma faveur, je vais peut-être faire des erreurs parce que j'aurais pris des risques. risque, mais être fier de cette prise de risque. Et quand ça marchera, je pense que là, ça sera d'autant plus savoureux, quoi.
Les mondiaux de ski alpin en Autriche, départ de la première manche du géant femme à 10h.
Et c'était le journal des sports. Merci Marine Clette.
Marine Clette dans le journal de Laura Dulieu. Le temps de ce samedi.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir vos véhicules. Avec plus de 400 centres et 800 ateliers mobiles, les experts Euromaster sont partout au service de votre sécurité.
Et aujourd'hui, c'est au nord que le ciel sera un peu plus couvert, Jean-Michel Golinski.
La Loire va jouer la frontière entre le soleil de la moitié sud et le ciel quand même plus mitigé dans la partie nord. Au gré des éclaircies nocturnes, les températures sont souvent descendues entre moins 2 et 0 degrés du Poitou au Massif central et de la Franche-Comté au nord de Rhône-Alpes. Généralement, il fait 6 à 10 ailleurs. Déjà 18 degrés au lever du jour sur la Corse et 15 sur la côte d'Azur. Les brouillards sont fréquents au sud de la Garonne et du Beaujolais au Vivarais, mais tout ceci va évoluer rapidement vers le soleil pour la moitié sud du pays avec un Mistral ultramontane vers 70 km à l'heure. Dans la moitié nord, le ciel souvent plus gris de la matinée va s'éclaircir en journée. Avec cet après-midi, les températures proches de celles d'hier vont afficher 12 à 14 sur le Grand Est, 14 à 16 en Rhône-Alpes et du nord de la Loire à la Belgique, 16 à 18 dans le sud-ouest et 20 à 24 sur les villes méditerranéennes.
Jean-Michel Golinski, Météo France.